Votre grand journal du soir sur Europe 1 et votre invité Mathieu Béliard, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, qui est resté avec nous et vous posez vos questions au 39-21.
Merci de rester pour nos auditeurs, Bruno Retailleau, ce soir. Beaucoup de questions sur ce rapport sur la radicalisation dans les services publics, évidemment, c'est ce qui est à la une ce soir. Mais d'abord Philippe, qui est au 39-21 avec nous, en Loire-Atlantique. Je crois que Philippe est plutôt supporter de Bruno Retailleau. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Mathieu Béliard.
Merci d'être avec nous ce soir. Allez-y, votre question pour Bruno Retailleau.
Alors ma question, c'est déjà des remarques en général, dire que j'apprécie effectivement, il vient de le dire, mais sa fidélité. C'est suffisamment rare, je trouve, en politique pour le souligner. Il a toujours soutenu M. Fillon, il continue, je dirais, à le défendre, et je trouve ça bien. Et lui dire également que... Bah oui, ça commence plutôt bien. Et lui dire également que pour les européennes, bon, effectivement, le résultat n'a pas été bon.
Philippe.
Et que malgré ça, enfin, moi, ça m'a plutôt encouragé à m'impliquer. Je me suis rapproché d'élus républicains de la Loire-Atlantique pour dire, je vais retrousser mes manches et puis c'est pas fini.
Ah, bah, c'est une mauvaise période. C'est une bonne nouvelle, Philippe. C'est une très bonne nouvelle.
Et dans ces moments-là qu'il faut retrousser ses manches et puis aider si on peut. Et juste, Sonia Mabrouk, vous conseillez des livres. Moi, j'en ai un qui est excellent, que j'ai lu, qui est Autopsie d'un déni de démocratie de Frédéric Beniada et Marc Boucherie. Vous étiez très impliqué dans le transfert de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bah, je suis à Nantes, j'en parle. Actuellement, il y a une concertation sur le réaménagement de Nantes-Atlantique. J'ai participé à la première réunion qui était assez folklorique dans la mesure où vous avez le préfet de région, le directeur de la DGAC, les deux garantes qui vous disent « Messieurs, mesdames, on est venus là pour vous écouter et prendre considération de vos remarques. » Alors qu'il y a eu un référendum, bref. Et tout simplement pour dire que je trouve que les politiques ne sont pas assez présents à ces réunions. Il y a certes beaucoup d'associations et il y a beaucoup de gens qui étaient franchement pro-aéroport puisque c'est eux qui sont concernés par leur aménagement. Les gens, je pense aux gens notamment de Saint-Aignan-le-Grand-Lieu. Et je trouve qu'on n'a pas de politique dans ces réunions. Alors la période est peut-être mal choisie parce que c'est en plein été jusqu'au 31 juillet. Alors est-ce que c'est volontaire ou pas? Je sais pas, mais je pense qu'on a tellement parlé de Notre-Dame-des-Landes parce qu'il y avait de la casse, parce qu'il y avait des zadistes. Maintenant que ça concerne des gens qui payent leurs impôts, qui ont voté, je trouve qu'on n'en parle plus et qu'on voit plus nos politiques sur ce dossier.
Bruno Retailleau.
Écoutez, j'ai eu ce livre de Marc Boucherie, de Frédéric Beniada, vous avez raison. Simplement, ça a été le grand mensonge sur Notre-Dame-des-Landes. Je voudrais simplement vous rappeler qu'on a donné raison aux ultra-violents contre une consultation publique qui était sans appel, contre 180 décisions de justice. Voilà. On a nommé des experts qui étaient totalement partisans. Ce livre montre d'ailleurs l'enfumage. C'est absolument terrible. C'est une faillite de l'État. Maintenant, il reste que le Grand Ouest, qui est une des régions les plus dynamiques de France du point de vue économique, mais qui est très enclavée, puisque nous sommes au bout de l'Europe. On doit pouvoir avoir un aéroport digne de ce nom. Malheureusement, on ne fera pas, maintenant on s'en rend compte, mais on ne fera pas à Nantes-Atlantique, Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Mais il faut au moins l'optimiser pour qu'on puisse aller jusqu'à plus de 10 millions, voire 15 millions, puisque le trafic voyageur, on sera à la fin de l'année déjà à 7 millions, alors que nos fameux experts nommés par M. Hulot, nous promettait 6 millions en 2025. Vous voyez, cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur.
La question de Philippe, et Philippe, vous m'arrêtez si je me trompe, était aussi prospective sur la suite, et notamment sur ces réunions, Philippe, où vous remarquiez l'absence des politiques maintenant que les caméras sont moins braquées sur Notre-Dame-des-Landes.
Ça n'est pas ça. C'est que je crois qu'il y a eu un énorme encouragement. Moi, j'étais président de région, et droite-gauche d'ailleurs, chef d'entreprise. On s'est beaucoup mobilisé et on a reçu un camouflet comme jamais. Je veux dire qu'on avait un vote avec nous, on avait des décisions de justice dans tous les sens de la Commission européenne, je veux dire, aux plus hautes juridictions françaises. Et on a eu un désaveu. On a eu des scènes de violence que les policiers nantais, d'ailleurs, ont dû affronter. Et on a donné le dernier mot à ceux qui étaient ultra-violents. Pour ceux qui s'engagent, les élus, la démocratie, c'est au contraire essayer de régler les problèmes sans violence, les différends, dans un espace avec des votes, avec des décisions de justice. La démocratie, c'est c'est quoi ? C'est quand on n'est pas d'accord, soit on vote, ou soit il y a le tribunal, il y a la justice qui tranche les différends. Et là, on a eu les deux, et les deux ont été désavoués. C'est assez terrible. Mais je suis d'accord avec Philippe, il faut que des chefs d'entreprise, des citoyens, mais aussi des élus, soient dans ces réunions pour dire, attention, le combat continue, parce que le combat aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus connecté, dans une région qui a, c'est la région qui a le taux de chômage le plus faible, on a besoin d'accompagner notre dynamisme, et comme on est très 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 loin des cœurs vitaux de l'Europe, on a besoin aussi d'une connexion, de connexion au pluriel aérienne.
Philippe ?
Oui, j'entends et je suis complètement d'accord avec Bruno Retailleau. Moi j'ai participé également à cette concertation, cette, alors c'est pas un référendum, c'est une consultation, et j'ai été dégoûté, je dirais, par la décision de M. Macron qui s'était pourtant engagé, je pense que c'était en face de vous, je crois me rappeler.
Ah oui, c'était le 6 avril. Je ne conserve pas que des bons souvenirs, mais je peux vous le dire.
Qui s'était engagé à respecter
c'était
le vote.
C'était sur une chaîne publique, absolument, le 6 avril 2017, absolument.
Et là, j'insiste là-dessus, mais bon, je vous dis, les associations font bien leur travail et défendent les habitants qui sont concernés. Et on sera également concerné s'il y a aménagement. Il y a 4... réaménagement possible, notamment au niveau des directions de piste, mais je trouve que des élus comme vous, qui ont quand même une parole qui porte, seraient les bienvenus à ce genre de concertation, même si je pense que bon, je comprends qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, mais au moins pour soutenir ces gens qui, je vous dis, eux, n'ont pas, effectivement, n'ont rien cassé. Moi, je travaille dans le centre-ville de Nantes et vous avez entièrement raison. Quand il y avait des. À l'époque, c'était sur la loi travail, quand il y avait des manifestations
à Nantes. Il ne faut pas que les habitants de Saint-Aignan-Grandlieu et d'autres habitants en paient les pots cassés avec des nuisances sonores. Donc, il y a eu aussi des engagements du Premier ministre. Il faudra que. Et moi, je tiens à ce qu'on les surveille et qu'on les contrôle, bien évidemment. De même qu'il y a une zone, notamment environnementale, qui est très protégée. Donc, si on veut avoir une démarche écologique, ça doit être aussi. À Nantes Atlantique.
Merci Philippe de votre appel. Depuis Nantes, une première question à l'élu local qui est Bruno Retailleau. Merci Philippe d'avoir pris la parole au 39-21. Mickaël, Grégoire, Dominique sont là en attente. On revient dans quelques instants.
Europe 1.
Vos questions pour Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, c'est au 39-21. A tout de suite.
Sur Europe 1, Mathieu Béliard, et vous échangez avec Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de la Vendée au standard d'Europe 1, le 39-21.
Vous, ce n'est pas moi, hein. Parce que pour échanger avec Bruno Retailleau, il y a les pubs. Vous, c'est vous, au 39-21. N'hésitez surtout pas. Vos questions pour le président du groupe LR au Sénat. Une des voix qui compte à droite ces derniers temps. On a évoqué les européennes avec notre auditeur précédent, Philippe. On va reparler de ce rapport sur la radicalisation dans les services publics. Est-ce que cela vous inquiète ? Est-ce que vous avez des questions pour Bruno Retailleau ? Mickaël est en direct avec nous ce soir. Bonsoir, Mickaël.
Oui, bonsoir.
Vous êtes en Gironde, je crois, Mickaël.
Voilà, exactement, oui. Oui, en Gironde, à Targon, précisément, juste à côté de Bordeaux.
Votre question pour Bruno Retailleau.
Voilà, alors du coup, ma question, elle est la suivante. J'aimerais savoir quelles sont ses idées ou ses propositions suite au rapport qu'il y a eu avec la radicalisation dans le domaine public, dans les entreprises publiques, et j'aimerais savoir quelles sont ses propositions pour essayer de réguler ou du moins de contrôler pour éviter de se retrouver avec n'importe quel profil extrémiste au volant d'un bus ou contrôleur des impôts, enfin, je ne sais pas. Mais
oui, non, mais voilà. C'est important, Mickaël, parce que alors, votre question est ouverte, mais assez concrète. On a entendu avec Sonia Mabrouk tout à l'heure que vous étiez assez déçu par le contenu de ce rapport.
Déçu, c'est-à-dire que d'abord, pour l'instant, je ne l'ai pas lu dans son entier. Et moi, je pense que, pour répondre très concrètement à votre question, il y a les deux bouts de la chaîne. Il y a d'abord la surveillance et le renseignement. Nos services ont fait d'énormes progrès. Mais il faut qu'on arrive à pister, à savoir, et notamment avoir l'ensemble des informations. Ça, c'est la première étape. Et il ne faut pas hésiter à révoquer lorsque un individu est convaincu, justement, de radicalisation. Parce que c'est grave. La radicalisation, en réalité, c'est à la fois un phénomène de violence mise au service d'une idéologie. Voilà. Alors, une idéologie islamiste, mais on parle de
On a bien compris tout à l'heure que ce n'est pas seulement l'islamisme, en grande partie l'islamisme, mais que c'est la question d'une légitimation de l'action violente.
Simplement, ce que je veux dire, c'est que ce point-là, on ne peut pas traiter uniquement le terrorisme islamiste ou l'islamisation d'un certain nombre de services publics ou autres, sans le traiter globalement. Moi, je pense qu'il y a un bras de fer qui est engagé avec ces mouvements d'un islam politique. Attention, on peut avoir une pratique de l'islam paisible et compatible avec la République, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des menées qui sont sur l'ensemble de France et qui pénètrent à la fois des entreprises, des services publics, etc. Et la main ne doit pas trembler. Je m'explique. Moi, je pense que, par exemple, pour la burqa, là aussi, il y a un signal. Vous vous souvenez de cet évadé de prison qui s'était déguisé avec une burqa parce que ça passait inaperçu. Ou un niqab. Ça veut dire quand même que la loi de 2010 n'est pas appliquée. Moi, je propose, par exemple, sur la burqa, de faire en sorte qu'on passe d'une simple contravention à un délit. Je pense qu'on ne doit pas non plus supporter ni le burkini, ni...
Là, on est en dehors des services publics.
Mais on est en dehors. Mais par exemple, nous avions voté, nous, au Sénat, vous savez, sur la loi de M. Blanquer sur l'école, nous avions voté quelque chose que le gouvernement a refusé. Le fait que les mamans accompagnatrices ne puissent pas être voilées. Pourquoi ? Parce que le voile, si vous voulez, est un marquage. C'est un marqueur d'une communauté avec une signification, avec un objectif séparatiste. On isole une communauté du reste de la communauté nationale, mais en même temps sexiste, avec ce principe de la soumission de la femme. Et moi, je pense que c'est un choix politique. Et que ce soit dans les services publics ou partout dans la société, on doit faire un choix politique très clair. Et si on fait ce choix politique, on doit avoir les instruments pour combattre ces menées-là. Ce choix politique, c'est où est-ce qu'on accepte ce fameux séparatisme, ou alors on est pour l'égalité homme-femme. Est-ce qu'on est pour l'universalisme républicain, ou est-ce que on se coupe dans la mode anglo-saxonne du multiculturalisme ? Moi, Michael, je pense que cette lutte-là, il faut en prendre l'ensemble des outils et ne rien céder sur l'ensemble du territoire, service public, banlieue ou autre d'ailleurs, ou même ville moyenne.
Michael ?
Oui. Mais du coup, je suis assez d'accord avec vous, mais ce qui me gêne un peu, c'est parce qu'on associe l'islamiste à une soumission de la femme. Enfin, pour avoir côtoyé des familles chrétiennes très 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 pratiquantes, la soumission de la femme est aussi présente. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Je pense que c'est aussi dangereux d'avoir cette porosité et finalement, on est partout. Alors, contrôler, d'accord, mais la liberté... quand est-ce que ça s'arrête, hein, il faut c'est assez compliqué.
Enfin, où est-ce qu'on met le curseur, c'est la question.
Ah
que,
non, mais
que
là, voilà, c'est là, le
curseur, je suis pas d'accord avec vous quand vous établissez cette comparaison entre ce que serait le rôle des femmes dans un univers chrétien ou le rôle des femmes dans un univers islamiste. C'est très 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 différent. Il y a une très très belle parole qu'on croit ou qu'on ne croit pas qu'on devrait savoir de Saint Paul, qui dit voilà, il n'y a ni maître ni esclave, ni homme ni femme, ni juif ni païen. C'est-à-dire que quand on comprend bien cette culture-là, on est pour une égalité ontologique, une dignité intrinsèque d'un homme ou d'une femme. Or, l'islamisme soumet, c'est une soumission de la femme. Et d'ailleurs, là où la charia est appliquée, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Elle doit respecter un code civil, parce que la charia, en réalité, c'est la loi religieuse qu'on transpose comme loi civile. Et là, la femme doit être soumise à l'homme. Dans tout, elle doit la soumission. L'homme, grosso modo, est libre de beaucoup de choses, mais la femme, elle, ne l'est pas. Je suis désolé, la République française, c'est d'abord l'égalité entre l'homme et la femme. Et ça, on ne peut pas transiger.
Merci Mickaël pour votre question, vos remarques, cet échange que vous avez avec Bruno Retailleau ce soir. Dominique est en ligne avec nous, décidément c'est l'Ouest hein, qui appelle ce soir, on était chez vous du côté de Nantes tout à l'heure. Et un nouvel appel de Bordeaux avec Dominique. Bonsoir Dominique.
Sud-Ouest. Oui, bonsoir.
Vous êtes gérant d'entreprise à Bordeaux, Dominique.
Oui, je profitais de la venue de Bruno Retailleau dans votre studio pour lui poser une question qui me pose quand même beaucoup de questions par ailleurs. C'est où sont passés les 4 millions de votants de la primaire 2016 et le contenu programmatique FER, dont on n'entend absolument plus parler. Et au moment où les Républicains dévissent complètement au niveau de leur électorat, alors qu'ils sont repartis en novembre 2016 avec un socle de 4 millions d'électeurs venus deux fois, hein, premier tour et deuxième tour, organisé de main de maître avec des adhérents LR d'ailleurs, pour avoir vécu cela de très très près, avoir visité plus de 20 bureaux de vote, je peux vous dire que ça a été quelque chose de remarquable. Bref, il y avait quelque chose de remarquable. Cette droite que tout le monde cherche, elle était au pied des Républicains en novembre 2016. Qu'en avez-vous fait ?
Alors, on est loin de la radicalisation, Dominique. Je vais essayer de vous répondre parce que c'est aussi une question qui me taraude. D'abord, on ne doit pas accepter ce duel mortifère, manichéen, simplificateur que voudrait nous imposer Emmanuel Macron entre, d'un côté, les progressistes et de l'autre, les populistes. Je crois qu'il y a un énorme espace. Moi, je plaide, vous savez, et souvent, je prends l'exemple de ces primaires. Je prends l'exemple de ces primaires où beaucoup de Français qui partagent des convictions qui ne sont surtout pas encartées à LR se sont retrouvés sur un socle de valeurs. Parce que, vous savez, la droite, historiquement, elle est plurielle. Voilà. Il y a une droite plutôt libérale qui est attachée à la liberté. Très franchement, quand on voit en France le degré de fiscalité, de charges, de normes et ce manque de liberté en termes d'entreprise, la liberté de penser aussi. Parce que je voyais un ministre qui propose maintenant un ordre pour les journalistes, par exemple. Un conseil de l'ordre pour les journalistes. On a eu les fake news. On va avoir une députée à proposer pour les histoires de haine sur le cyber. Très bien. Mais attention à la liberté de penser. Donc il y a la liberté, il y a l'autorité de l'État. Nous, on veut que l'État puisse, si j'ose dire, garantir la sécurité des biens et des personnes. C'est normal, on est dans une démocratie. Et puis on est attaché à des valeurs. On est attaché à notre pays. Qu'est-ce que notre pays ? C'est la République laïque. Qu'est-ce que notre pays ? C'est une nation. Et aujourd'hui, la France est profondément divisée. Et moi, je pense que sur ce socle qui avait séduit tant de millions de Français qui partagent des convictions plutôt de droite, je pense qu'on peut reconstruire. C'est ce que je fais avec Force Républicaine, évidemment, mais à condition de travailler. Si je peux parler aujourd'hui de l'islam et de la République, c'est parce qu'il y a un an, nous avons fait une convention dans le cas de Force Républicaine de très haut niveau, où déjà, on a notre arsenal avec une trentaine de mesures. Mais ça, il faut que la droite française arrête de se chamailler. C'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu aller, vous voyez, me bagarrer dans cette querelle avec notamment des amis de LR. Je pense que la droite française, malheureusement, a trop investi dans la querelle des égaux et pas assez investi dans le débat d'idées. Retrouvons le débat d'idées. Il y a plein l'écologie. Franchement, l'écologie, elle est née à droite. On a plein de choses à dire. On fait des choses. Moi, j'ai fait des choses comme président de département, à la région aussi. Mais bon, il faut qu'on les valorise. Et c'est sur ces thèmes-là qu'on nous attend. Qu'est-ce qu'attendent de nous les Français ? Pas qu'on critique du matin au soir Emmanuel Macron, bien sûr, il faut s'opposer. Ils veulent qu'on propose quelque chose de différent parce qu'il y a un espace, encore une fois.
C'est ce qui avait marché avec François Fillon, d'ailleurs. Je reviens sur la question de Dominique, ce travail au long cours.
Oui, c'est tout à fait cela. Oui, la question de base, c'est que vous aviez, je parle au passé malheureusement, mais il y avait vraiment une majorité dite silencieuse qui était réveillée parce qu'il y avait un contenu programmatique d'une rare
vous
qualité
avez raison. Parce qu'il avait
d'un
été fait
à niveau présidentiel. Je trouve qu'il s'est délité au lendemain de la primaire. Vous aviez 1500 comités qui étaient répartis sur tout le territoire, qui étaient très actifs. Il va falloir retrouver, et là, je peux vous dire que vous allez pouvoir mettre votre bâton de pèlerin pour cela, ça ne va pas être simple. Mais François Fillon ne s'est pas construit, vous le savez mieux que quiconque, tout seul. Il s'est construit grâce au territoire, parce qu'il les a arpentés pendant des mois et des mois, et il a été le seul et le premier à mettre son contenu programmatique en téléchargement open source à tous les Français. Et là, la clé du succès, elle est là.
Bon, en gros, vous avez le mode d'emploi, vous avez suivi François Fillon. Vous avez suivi François Fillon pendant des années.
Vous savez, et ça va le faire.
Dominique, moi j'ai beaucoup souffert lorsque on échouait à la présidentielle et j'ai vu que ma propre famille politique, dès les législatives deux mois après, avait tourné le dos à notre projet. Pourquoi est-ce que le projet de François Fillon a été très très audacieux ? C'est pas parce qu'il a été à l'époque conçu par des politiques, il a été conçu par la société civile. Vous avez dit 1500 communiqués et c'est sans doute sa radicalité qui lui a été reprochée. Ensuite, bien, elle venait en réalité, non pas du petit milieu, du microcosme politique, mais c'était des Français, des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés, des agriculteurs, des commerçants, des artisans et d'autres qui avaient constitué ce socle, voilà, que moi j'essaie de retrouver. Je pense en tout cas que le message de cette primaire, bien sûr, alors, tout ça c'est mal terminé parce qu'il y a le présidentiel, mais très franchement, le message de la primaire, c'est que sur ce socle de l'attachement à la liberté, de l'autorité de l'État, d'un certain nombre de valeurs françaises, il y a beaucoup beaucoup de Français, de droite et d'ailleurs, qui partagent ces convictions. Simplement, il faut qu'on arrive à les porter de façon généreuse. Moi, j'avais mal vécu. On n'a pas su faire, par exemple, la sécurité sociale. Elle est en train d'être dénaturée par Emmanuel Macron, qui l'amène sur un modèle plutôt anglo-saxon. Il faut qu'on l'explique, il faut qu'on réforme la sécurité sociale, mais sans la déformer. Parce que les Français sont une seule et même communauté nationale. Il y a tant à dire, mais je pense qu'on doit parler aussi de la radicalisation.
Et merci Dominique, merci. Je sais que vous devez partir, Bruno Retailleau, simplement d'un mot, on le sait déjà, vous ne voterez pas la PMA pour toutes. Vous, à titre personnel, c'est moins clair pour tout le parti, il n'y a pas une ligne très claire. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir Agnès Thil, qui vient d'être exclue de La République En Marche ?
Vous savez, moi je préside un groupe. La première chose sur ce genre de débat, c'est que je dis à mes sénateurs, vous avez... l'entière liberté. C'est votre conscience qui dictera votre vote. Et je trouve qu'En Marche, qui se prétend être à la pointe de la modernité, le nouveau monde, exclure parce qu'on n'est pas d'accord, franchement, c'est plutôt pour moi le monde très ancien. Sur la PMA, moi j'en parle avec beaucoup de respect. Simplement, moi ce que je ne veux pas, c'est qu'on aille vers un marché de la procréation où on achèterait à l'étranger, comme le fait par exemple la Belgique, où on achèterait des gamètes à l'étranger parce qu'on n'en a pas suffisamment de spermatozoïdes en France, par exemple. Je ne veux pas qu'on ouvre cette marchandisation. Je ne veux pas qu'on aille ensuite, par un effet de domino, sur la GPA, où on louerait le ventre de femmes dans des pays pauvres ou de femmes qui sont dans le besoin. Je pense qu'il ne faut pas, parce que la technique rend possible une chose, qu'on doive nécessairement l'accepter. Il y a la filiation. La PMA, c'est la PMA sans père. La PMA pour toutes, c'est la PMA sans père. Est-ce que c'est anodin ou est-ce que ça a des conséquences? Au moins, on peut débattre. Vous savez, quand je disais la liberté de penser tout à l'heure, c'est que je constate qu'en France, c'est de plus en plus difficile de débattre. Très vite, on en vient aux mots, très vite, on veut disqualifier. Essayons sereinement de débattre, de poser les choses, parce qu'on veut construire pour nos enfants une société vivable. Cette société vivable, elle doit être aussi, elle doit pouvoir dire halte à la marchandisation des corps. Et attention à l'anonymat, bien sûr. Elle doit dire aussi très bien la technique. On peut faire des choses merveilleuses avec la technique. Mais parce qu'on est homme et femme, à un moment donné, on sait qu'il faut limiter la technique. La nature a trop exploité la nature. Parce qu'on a une technique surpuissante qui détruit la nature, on a su pas suffisamment poser des limites. Eh bien, pour l'homme, on convoque le principe de précaution pour le règne animal, pour plein de choses. Il faut aussi l'invoquer aussi pour cette chose humaine. Maintenant, je n'ai pas de vérité révélée du tout. Simplement, je suis prêt à en débattre. C'est des grands sujets. La congélation de vos sites, c'est pareil. Moi qui étais spécialiste dans le numérique, moi j'avais vécu il y a quelques années quand des grandes sociétés américaines, je crois que c'était Amazon et Apple, proposaient la congélation de vos sites pour les jeunes femmes, pour qu'il soit bien sûr que les jeunes femmes passent tout leur temps, d'accord, tant que leur pendule biologique, exactement. Mais ben, si c'est pour dire aux jeunes femmes, moi j'ai ma fille aînée, voilà, elle travaille beaucoup, mais elle me dit, mais papa, moi j'ai ma pendule biologique qui tourne. Mais de grâce, ne rentrons pas dans ce genre de choses où il y aurait une pression professionnelle qui dirait aux jeunes françaises, écoutez, il n'y a pas de problème, votre pendule biologique, elle va tourner. On sait qu'après X années, c'est plus difficile d'avoir des enfants, mais on va vous payer la congélation de vos sites. Moi, je ne veux pas de cette société-là, qui est une société de marché. Oui, à l'économie de marché, moi je suis un libéral, mais non à une société où le marché, où l'argent, où cette sphère financière réorganiserait tout autour d'elle.
Merci, moi, ça, Bruno Retailleau. Merci voilà. Bruno Retailleau d'être venu sur Europe 1 ce soir, d'avoir répondu à nos auditeurs au 39-21. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Il est 19h46.
Europe 1.
On revient dans quelques secondes avec Benjamin Muller. A tout de suite sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard.
19h49, il est là, un peu plus tard que d'habitude, parce que Bruno Retailleau est resté répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1.
Ouais, je suis sympa avec Bruno.
Merci d'avoir patienté, Benjamin Muller. En même temps, vous profitez de nos locaux, puisqu'ici, il y a la clim.
Absolument. C'est
alors qu'à la maison, là, il y a trois enfants qui sont un peu énervés parce qu'ils ont eu chaud toute la journée.
C'est ça.
Il faut le bain, la douche,
ma femme,
tout
du coup,
ça. Voilà.
Qui s'occupe
et vous,
de tout
vous êtes
ça.
Ici au frais.
Il y a quatre ventilos aussi qui tournent à fond.
Benjamin Muller, évidemment, chaque soir, comment les médias traitent un sujet de l'actualité aujourd'hui. Quelque chose me dit qu'on n'est pas très loin de ce thème qu'on évoquait.
Écoutez Mathieu, autant à la fin des années 70, quand on allumait notre téléviseur, on entendait ça.
La France a peur.
Autant en juin 2019, effectivement, on entend ça.
Il est quasiment 23h, la France a chaud.
Voilà, Bruce Toussaint, c'est le nouveau Roger Gicquel. Alors tout le monde répète que la France a chaud, c'est vrai, mais on n'est pas les seuls en Espagne par exemple.
Ce que l'on appelle en France la canicule, les Espagnols appellent cela l'été.
Eh oui, c'est pas faux, mais eux, à l'heure de la sieste, eh ben, ils font la sieste justement, alors que nous, on est obligés d'aller bosser. Quelle injustice. Donc question, comment se rafraîchir au travail? Audrey Crespo-Mara, on a parlé avec son invité Christian Jacob, c'était sur Europe 1.
François de Rugy ne mettra pas de cravate cette semaine, car selon lui, garder sa cravate, ça peut inciter à pousser la clim à fond. Je vois que vous avez votre cravate.
Dites donc, on a des sacrés ministres, des sacrés penseurs. Hein. Bravo, monsieur de Rugy.
Oui, non, il ne faut pas demander aux
politiques. Je pense que le Haut Conseil pour le climat nous dit qu'on n'en fait pas assez pour le réchauffement climatique. Alors qu'on enlève les cravates.
Vous, les cravates, non, c'est pas trop votre style.
Non, c'est pour la planète.
C'est pour la planète, absolument. Mais donc, vaut mieux demander, je crois, plutôt qu'aux politiques, aux médecins. Le docteur Frédéric Salmane, par exemple, était chez Sonia Mabrouk lundi, déjà sur le constat.
Quand il fait chaud, oui. Beaucoup de personnes ont un mal fou à dormir.
Et oui, ça c'est vrai. Du coup, les médecins rivalisent de super conseils révolutionnaires, comme sur France Info par exemple.
Donc allez, essayez d'aller dans la pièce la plus fraîche pour dormir, là aussi, si c'est possible.
Non, ça c'est pas bête. Moi qui préférais dormir sous mes combles, je vais essayer ce soir. Allez, un autre conseil, on partage.
Vous pouvez avoir aussi une petite bouteille d'eau près de vous.
Mais oui, bien sûr. Pourquoi j'y avais pas pensé? Dites donc, qu'est-ce qu'on apprend? Allez, autre chose, docteur Salmane par exemple. Docteur Salmane, non, il veut pas venir. Pourtant, c'est un bon conseil. Écoutez bien, docteur Salmane.
Vous pouvez, avant de partir le matin, mettre votre oreiller, vos draps si vous voulez, et même un gant de toilette au frigo. Vous mettez ça ensuite dans votre lit. On s'endort comme des bébés.
Eh oui, l'oreiller dans le frigo, Omblin, fallait juste y penser.
Ben, non, et voilà. Le gant de toilette, pourquoi
je comprends pas trop, je sais pas, c'est pour quelle partie du corps.
Sur la nuque.
On n'a pas posé la question au docteur. Bon, en vrai, on plaisante, mais il n'y a rien à faire. Si vous n'avez pas la clim, vous êtes condamné à avoir chaud la nuit, c'est comme ça. Sauf si vous suivez la bonne idée d'Hélène Zélani, c'était ce matin sur Europe 1.
La bonne idée, c'est une balade dans les Côtes d'Armor où les températures ne dépassent pas les 19-20 en ce moment.
Et ben voilà, écoutez Christiane qui a suivi ce conseil.
Vous venez d'où ?
De l'enfer parisien. 36 degrés.
Alors qu'ici ?
20 degrés. C'est le paradis.
Voilà, tous dans les Côtes d'Armor. Vous allez voir que les prix vont exploser à Perros-Guirec. Ça va devenir le nouveau Saint-Tropez. On va tous s'y courir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Mais bien sûr, je ne peux pas vous laisser sans la vraie question que tout le monde se pose.
Mais il faut dormir habillé, en pyjama ou tout nu ?
Alors, idéalement tout nu.
Mais voilà, Mathieu, vous savez tout. Le drap dans le frigo avec le gant de toilette, hein, voilà. Une bouteille d'eau à côté du lit et on dort tout nu. Voilà, vous dormirez mieux.
Je voudrais saluer Boris. Boris qui est un auditeur d'Europe 1 qui nous a écrit sur Twitter un petit peu plus tôt avec une photo de son thermostat 16 degrés du côté de Calais. Il n'y a pas que la Bretagne.
Ah, bah voilà,
dans le
tout
nord
ça
aussi, on est épargné par la canicule. Merci Boris et merci Benjamin Muller. À demain, il est 19h52. Tout de suite, Catherine qui est en direct avec nous. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Ah bah tiens, ah bah alors, Catherine, on est à Calais.
Oui,
un peu de fraîcheur sur Europe 1 ce soir.
Oui. Nous avons la chance de n'avoir que 16 degrés et beaucoup de vent.
Et de la pluie un peu aussi ou pas?
Non,
ça
non.
Va.
Non, parce que non, là... non, quand même pas.
Bon, alors vous, du coup, vous mettez pas les draps au congélateur, 16 degrés en journée, vous devez
non,
vous dire.
Non.
Mais quand vous allumez la télé, là, vous devez vous dire, mais dans quel pays je vis, quoi? Ils sont tous en train de parler oui, de canicule. Vous avez 16 degrés.
On a 16 degrés. Bon, comme on est à l'extrême nord de la France, on finit par croire que nous ne sommes plus en France. Mais oui, nous y sommes. Donc, je vous encourage à venir chez nous. Nous avons des plages magnifiques, même avec du vent. C'est très joli à voir. Et puis, bon, on vous plaint, franchement.
Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire très simplement, là, je m'imagine, sur une, que ce soit près de chez vous, je pense à la baie de Somme aussi, la Bretagne, oui. Là, sur une plage avec du vent, franchement, on prend. Vu la chaleur qu'il y a ici en ville, on prend. Merci Catherine de votre appel, c'est sympa.
Je vous en prie, 39-21.
Très belle soirée à vous. Jean-Luc est avec nous. Jean-Luc, dans les Deux-Sèvres. Vous êtes où dans les Deux-Sèvres, Jean-Luc ? Bonsoir.
Alors, bonsoir. Nous sommes à Celles-sur-Belle.
D'accord.
Et dans les Deux-Sèvres, à 1h30 de La Rochelle, une heure de Poitiers, pour donner un petit peu la... tout près de Niort.
D'accord, non, mais je situe, c'est précis, Celles-sur-Belle, où vous dirigez un EHPAD, Jean-Luc.
Oui, un EHPAD de 93 résidents, moyenne d'âge 86 ans, durée de vie dans l'EHPAD, j'ose pas le dire, un an et demi, au jour d'aujourd'hui, mais c'est un peu la moyenne dans les EHPAD, donc c'est des gens qui sont en fin de vie. Mm-hmm. Et la difficulté, vous savez que depuis... 2003, de près, depuis cette canicule de 2003, il y a eu des directions qui ont été prises, à savoir que chaque EHPAD aujourd'hui a une chambre rafraîchie, enfin une pièce rafraîchie. Donc nous, on a une pièce rafraîchie, pas de problème, mais le problème n'est pas là. Le problème, il est au niveau des personnes âgées qui ne sentent pas le chaud, donc qui veulent rester toujours habillées. Donc c'est le travail des aides-soignantes au quotidien, depuis ce matin 8h, puisque ce matin, 8h, il faisait quand même 30 degrés dehors. Jusqu'à tout à l'heure, lorsque je les ai quittés, il faisait 38 degrés à l'ombre. Ce qui fait que là, la première chose, c'est de les déshabiller et qu'ils soient en tenue légère. ce qui n'est pas évident pour des gens qui sont souvent psychiquement dépendants. La deuxième chose, c'est de les faire boire. Et les faire boire, ben, ils n'ont pas soif. Donc là, il y a tout un travail qui est à faire auprès des résidents. Et c'est un peu compliqué de leur donner à boire, même quand ils n'ont pas envie. Donc il faut user de stratagèmes sous forme de jeu, il faut qu'ils aillent dans les pièces rafraîchies, ils veulent rester dans leur chambre. Et dans les chambres, il n'y a pas de clim. Encore qu'on ait quelques clims portatives pour mettre dans les chambres pour les personnes qui sont
habitées. Bien sûr, non mais là, je comprends bien, parce que c'est marrant, on donne les conseils vus d'en haut, on dit des choses très définitives, voilà. Et une fois mises en pratique, on comprend bien la difficulté que vous avez, Jean-Luc, et pourtant une mission essentielle dans ce genre de moment de l'année.
Tout à fait, avec des directives que l'on reçoit pratiquement, je ne veux pas dire toutes les heures, mais presque, de l'ARS,
l'Agence
de la Direction Sanitaire et Vétérinaire, tout le monde nous dit ce qu'il faut faire. Le dire derrière un bureau, c'est facile, mais vous savez, comme moi, et vous l'avez souvent redit, les EHPAD, au jour d'aujourd'hui, manquent de personnel. Et aujourd'hui, au jour de canicule, et encore demain, et encore après-demain, le personnel, ben, il a chaud, et puis c'est un travail supplémentaire de longue haleine, et c'est très très dur.
Mais c'est bien de le préciser, Jean-Luc, parce que on raconte des choses. Vous savez, nous aussi, on est là pour raconter l'information, l'expliquer, mais aussi pour vous écouter, parce qu'on voit bien la mise en pratique, les directives qui arrivent de bureau, et la mise en pratique pour Jean-Luc et le personnel de l'EHPAD que dirige Jean-Luc dans les Deux-Sèvres. Merci, hein, Jean-Luc, d'avoir pris la parole ce soir au 39-21. Europe 1.